Bonjour la Terre au Carré, je m'appelle Lisa, j'habite à Kampala en Ouganda et je voulais réagir à la chronique de Camille sur le projet de pipeline. Donc je suis allée moi-même en avril dans le parc de Murchison Falls, le parc national où le pipeline doit être construit. Et effectivement, le parc commence déjà à être défiguré par les travaux. Et donc je vous invite à aller sur le site stopicop.net, c'est l'acronyme en anglais du projet. Et donc sur le site, vous pouvez notamment envoyer des messages aux grandes banques et aux assureurs pour qu'ils vous engagent. Ça a déjà marché pour les grandes banques françaises et pour AXA, par exemple. Donc ça montre que la mobilisation fonctionne. Voilà, merci.
Oui, bonjour Jacques, j'appelle du Lot, du côté de Rocamadour. Je voulais dire bravo à la Tête au Carré qui nous sensibilise à l'environnement et au devenir de la planète. Alors vous avez sélectionné le message d'un soi-disant écologiste pro-nucléaire. Cet écologiste sait-il comment traiter les déchets nucléaires, dangereux pendant des centaines d'années? Est-il prêt à en stocker dans sa cave ou son jardin? Prévoit-il de construire sa maison en recyclant des matériaux issus du démantèlement des centrales? Cet écologiste sait-il que les eaux de refroidissement rejetées dans les fleuves et dans la mer perturbent gravement la faune et la flore aquatique? Cet écologiste sait-il que lors de la canicule de 2003, la centrale du Blayais a évité une catastrophe grâce à une dérogation ultime pour l'utilisation et le rejet des eaux de la Gironde? Et puis, je ne parle pas du gouffre financier de l'EPR de Flamanville, dont on ne sait pas, après 10 ans de retard, quand elle sera mise en service. Merci.
Bonjour, Marianne, à Boucau. L'association Vélo Associatif Clavette et Compagnie ouvre ses portes à Boucau ce week-end. Dans le cadre de la semaine du climat au Pays Basque, l'association organise ce samedi une collecte spéciale de métaux et des ateliers de sensibilisation au tri et au recyclage des vélos. Retrouvez tout le programme sur notre page Facebook Clavette et Compagnie.
Bonjour Mathieu, bonjour Camille, bonjour toute l'équipe. Je vous écoute tous les jours, mais alors même la nuit. Mais alors là, par exemple, pourquoi votre émission si intéressante sur la mer au temps des dinosaures passe-t-elle un jeudi quand les gosses sont à l'école? Pourquoi pas le passer un mercredi? On pourrait les brancher là-dessus. Bonne émission.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
On va essayer de brancher les gosses sur le sommaire de ce club de la Terre au Carré cet après-midi. Il sera question d'un collectif de potières qui a décidé de remettre l'argile au goût du jour. Nous irons sur les flancs d'une colline avec un roman où s'imbriquent les rêves et le réel. Et puis nous vous ferons découvrir une chaîne YouTube dédiée à l'agriculture durable. Et nos invités pour en parler, Myriam Chemla, Marianne Flich du collectif Fer Argile, la romancière Bérangère Cournut et le journaliste Pierre Gérard. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et bienvenue, on va se retrouver dans un instant pour parler bien sûr de vos différents sujets avec les messages, les questions qui arrivent sur la page de la Terre au Carré, les réseaux sociaux et bien sûr l'application France Inter avec vos notes vocales. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
Et comme tous les vendredis, le journal des bonnes nouvelles et des curiosités de la planète, Camille Cronier.
Et en ce dernier jour de l'année, je vous fais une petite compile à nouveau de mes préférés de 2021 avant d'entamer 2022.
Enfin. Voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestara et préparée aujourd'hui par Colin Gruel et Léonard d'Ocane avec à la technique Florian Dorimini.
Mathieu Vidard, la Terre au Carré. Sur France Inter.
Allez, on va commencer avec un premier tour de table. Myriam Chemla et Marianne Frisch, vous êtes potières. Votre ambition, dites-vous, c'est de faire de l'argile une MAD, une matière à défendre. L'argile entre en résistance, Marianne Frisch?
Ah, l'argile a toujours en fait été en résistance. Il accompagne l'humanité depuis la nuit des temps.
Oui.
Et ça serait sûrement très utile de pas l'oublier et de s'en resservir dans des tas de domaines.
Oui.
Que ça soit l'habitat ou la santé ou les habitudes de alimentaires, la conservation.
Myriam Chemla, l'idée c'est de montrer que l'argile peut répondre à plein de questions qu'on se pose aujourd'hui dans le domaine écologique justement.
Oui, c'est ça. C'est un matériau qui vraiment a vraiment beaucoup de potentialité, qui peut répondre vraiment autant dans l'habitat que dans notre quotidien qu'on a toujours évidemment utilisé, mais qu'on a remplacé savamment par le plastique et que maintenant il s'agirait de ne plus l'utiliser.
Ouais.
Donc, voilà.
Moi, j'adore votre slogan, moins de plastique, plus de céramique.
Voilà, c'est donc, ça, c'est notre slogan.
Tout est dit, et on va en parler avec vous dans quelques minutes. Bérangère Cornut, c'est un immense plaisir de vous recevoir à l'occasion de la sortie de votre nouveau roman, je ne sais même pas si on peut l'appeler comme ça, Élise sur les chemins, qui paraît aux éditions du Tripode, 2 ans après de Pierre Hédot, ce qui avait été un immense succès que moi personnellement j'avais adoré. Élise a 11 ans, elle vit sur le flanc d'une colline boisée, elle nous embarque sur différents chemins. C'est quoi justement? C'est un ovni poétique pour faire plaisir à votre maison d'édition qui revendique hein, cette appellation d'ovni. Hein.
Oui, c'est vrai, je n'ai pas fait pour leur faire plaisir, mais j'espère que ça leur a fait plaisir. Moi, je vrai que je parle de récit en vers libre.
Oui.
Voilà, c'est un texte j'ai cherché longtemps la forme, c'est celle-là qui est venue, c'était la plus joyeuse au moment où je me suis lancée dans le texte et voilà, ça est venu sur les 170 pages.
Absolument, il y a beaucoup question de nature, on va en parler évidemment, c'est le prétexte de vous inviter, on a sauté dessus. Pierre Girard, vous êtes le visage masculin de l'émission Xenus sur Arte, mais vous venez nous parler aujourd'hui de la chaîne YouTube que vous avez lancée qui s'appelle Tous Terriens, qui entame sa 3e saison, il y aura une nouvelle vidéo. Je vous laisse nous pitcher le sujet de votre chaîne.
Alors le sujet, il s'agit d'agriculture durable, où je vais à la rencontre, les yeux dans les yeux, d'agricultrices et d'agriculteurs pour découvrir des solutions bonnes pour la planète, bonnes pour les humains et bonnes pour les animaux.
Et bien voilà, saison 3 donc ce soir, on écoutera quelques extraits des précédents numéros et nous attendons bien sûr les messages des auditrices et des auditeurs pour parler de tous ces thèmes.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold.
The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old and we, and I suddenly turn and see your fabulous face.
It's not about me.
I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill.
Some they may go for cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, it would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see standing there before me.
I get a kick, though it's clear to see you obviously don't adore me.
I get no kick in a plane flying too high with some gal in the sky. My idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. I get a kick, though it's clear to see you obviously do not adore me.
I get no kick in a plane
flying too high with some gal in the sky. It's my idea of nothing to do. Yet I get a kick. Get my kicks out of you.
Et c'était Lady Gaga avec Tony Bennett à Get a Kick Out of You.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Le collectif Fer Argile réfléchit à de nouvelles façons d'être potier en 2021 et on en parle avec deux de ses représentantes, Myriam Chemla et Marianne Frisch, potières, céramistes et tourneuses. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous préciser ce qui caractérise chacune de ces activités alors ? Parce qu'on ne le sait pas forcément très très bien. La tourneuse par exemple ?
Tourner, c'est-à-dire que dans le collectif on est plusieurs avec des savoir-faire différents, dont le tournage qui est une matière, une façon assez traditionnelle de monter des pots, donc sur un tour, sur une girelle avec la.
C'est l'image qu'on a du potier.
C'est vraiment l'image
hein.
classique qu'on a du potier.
Qu'on a dans Ghost. Hein,
voilà.
Alors ça, c'est la référence absolue. Voilà, absolument.
Donc ça, c'est
ça y est, elle nous en a parlé depuis ce matin.
Voilà, mais ça, c'est fait. Il n'a pas voulu qu'on mette la musique, je suis très déçue.
Mais c'est un classique. Voilà, tourneuse. Et d'autre part, dans notre collectif, il y a aussi des gens qui font du coulage. C'est-à-dire qu'ils font avec dans des moules. Il y a aussi des techniques d'estampage. Donc il y a plusieurs techniques. Ce matériau de la terre permet vraiment plusieurs techniques. Donc moi je tourne, Marianne aussi.
Ouais.
Et céramiste et potière, en fait, céramiste c'est keramos, c'est la terre en grec. Et potière c'est celui qui fait les pots. Donc c'est vraiment la même chose. C'est ouais. des appellations diverses mais courantes. Voilà.
Ouais. Bérangère Cornut, est-ce que vous pratiquez vous ? C'est une question que je me posais tout simplement.
Non, en fait, je ne pratique pas, mais je crois que c'est un des arts qui me fascine le plus. Ouais. Je crois que c'est Gauguin hein, qu'on avait fait beaucoup.
Oui, beaucoup
voilà. Et moi j'avais découvert ça dans une expo. Et en fait, je crois que j'ai compris pourquoi j'aimais tant ça. C'est qu'en fait, on a à la fois la matière et puis le souffle ou le mouvement humain. Ou enfin, il y a un truc vivant, quoi, même quand l'objet est figé après. Donc ouais. C'est assez fascinant.
Je suis sûr qu'après cette discussion, on aura tous envie d'essayer au moins une fois l'objet de lutte. En fait, c'est ça l'idée aussi. L'argile et les objets que vous fabriquez, Marianne Frisch, comme objet de combat. On le disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment ça.
Ah, pour nous, c'est vraiment des objets qui vont nous permettre de transformer le monde. Alors, disons, peut-être pas avec nos petits bras à six, mais si tout le monde
et
s'y met. Ça ne suffira pas. Mais déjà, tous les céramistes français, ça ferait beaucoup. Puis tous les céramistes mondiaux, ça ferait énormément.
Ouais.
Et tous ceux qui peuvent le devenir. Ça serait un rêve.
Mais l'idée, ça serait quoi? Que chacun fabrique finalement ses propres emballages? Parce que transformer le monde, c'est une chose. Mais quand on voit le nombre d'emballages qui servent au nombre d'activités aujourd'hui dans le monde, est-ce que vraiment ça peut venir pallier le plastique aujourd'hui?
Vraiment, ça peut venir pallier le plastique là où c'est possible.
Ah.
On pourrait imaginer des objets d'irrigation qui seraient plus en plastique, mais en argile poreuse. Ça serait possible, c'est sûr. Ouais. Ça peut sûrement pas remplacer à la totalité des choses en plastique, évidemment. Mais par exemple, pour la conservation, ça remplacera le plastique et bien d'autres choses, parce que nos pots à lacto qu'on fait là... C'est des objets qui permettent de faire de la conservation des aliments avec juste du sel, de l'eau, un pot, pas d'énergie, pas de déplacement.
Mais ça remplace un Tupperware par exemple, vraiment un pot à lacto-fermentation?
Ça remplace pas un Tupperware, ça remplace une boîte de conserve, ça remplace votre congélateur. Voilà. Mais pas le Tupperware.
Mais de fait, le pot à lactofermentation, on l'a vraiment choisi pour sa dimension un peu symbolique d'une nouvelle nourriture, d'une nouvelle utilisation de la terre avec des matériaux qu'on a récupérés dans des carrières,
ouais.
avec très peu d'extraction, avec une terre très locale qui est vraiment sous nos pieds et qui est accessible à chacun et qui permet vraiment de pas aller chercher des pots, des choses faites en Chine, mais juste à côté de chez nous. Et il y a encore beaucoup de savoir-faire en France, de potiers qui tous sont déjà là, déjà dans des ateliers, et qui permettraient en peu de temps et avec une énergie un peu collective, et si les gens répondent à cette histoire, c'est de remettre en route cette façon de penser que la Terre est centrale dans nos vies, ce qui a été le cas pendant très longtemps, et qu'on a oublié largement, parce qu'on ne sait plus d'où viennent les matériaux, mais maintenant il s'agirait de juste refocaliser sur le fait que l'argile est tout à fait accessible et à la portée de tous, et dans l'achat et nous dans la fabrication, parce que le réseau de potiers existe déjà, donc il ne s'agit pas de remettre en route toute une série de manufactures, mais de déjà s'appuyer sur les savoir-faire qui sont déjà en action.
Avec des objets utiles, c'est aussi important de le préciser dès le début, parce
avec
que
des
on
objets
est
utiles
moins
et
dans l'objet de l'artisanat ou de l'art que vraiment de l'objet utilitaire quand même.
Hein. Oui, vraiment, ouais. et nécessaire.
Donnez-nous quelques exemples dans notre vie quotidienne, qu'est-ce qu'on qu'on pourrait remplacer, qui aujourd'hui est en plastique, par un de vos objets?
Bah, exactement. Par exemple, bon, les Tupperware ou les pots, n'importe quel pot qui sont en plastique dans votre cuisine, ça c'est sûr. Après, ça peut même aller jusqu'au frigo. Je veux dire, il y a des frigidaires en terre parce que la terre permet aussi la climatisation. C'est des systèmes qui ont déjà été...
Mais là, il faut avoir un jardin, par contre. Hein.
Non, pas du tout. Ah bon, les frigos, ça peut être vraiment en intérieur de maison. C'est pas une question d'extérieur. C'est simplement que les propriétés même de la terre permettent un refroidissement. Ça s'est fait pendant longtemps et c'est des vraies possibilités, par exemple. Ah oui. Ou même les enduits. Enfin, je veux dire, après, on peut aller jusqu'au bâtiment.
Mais le plastique, s'il a eu autant de succès, c'est parce qu'il y avait les avantages qu'ils sont bien connus, c'est très léger, c'est incassable, c'est facilement lavable, réutilisable, etc. Marianne Frisch, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments qui ont montré que le plastique s'est imposé partout dans le monde, quoi?
Voilà. Alors, on a juste oublié ces inconvénients.
Bien sûr.
C'est bien ça le problème, c'est la question de la balance. Les inconvénients du plastique, évidemment, le plastique, c'est pratique.
C'est léger.
Transparent, c'est...
C'est léger, c'est, donc pour le transport, voilà, par exemple, solide. C'est beaucoup plus léger au niveau des émissions de CO2, pour le transport, par exemple.
Oui, mais on n'est pas obligé de le transporter de très loin, les objets faits en argile, puisqu'il y en a partout. C'est la terre qui est sous nos pieds. Donc les carrières d'argile sont très près du sol, c'est très facile de les extraire. Il y en a absolument partout.
Elle a toujours son Tupperware avec elle, Camille, c'est pour ça. Donc elle imagine qu'elle a son pot en terre à la plage.
Alors là, évidemment, ça demande de repenser la manière probablement
C'est faux, évidemment.
C'est faux. Bon, alors vous faites comment avec votre Tupperware?
Non, mais la balance de pollution, elle est quand même...
En tout cas, la balance...
Elle est incalculable, je veux dire, maintenant.
Et par rapport à du verre, alors, puisqu'il y a beaucoup de bocaux, puisque j'ai mon bocal de soupe aujourd'hui.
Oui, par exemple, les bocaux, c'est quand même intéressant, ceux qui sont produits, de les utiliser, de continuer à aller les acheter à Emmaüs et de surtout pas oublier d'aller acheter toute la vaisselle qui est déjà produite à Emmaüs et de finir d'utiliser tout ce qui a été produit, parce que nous l'idée c'est pas de encore produire des choses qui sont pas nécessaires. Donc aller chercher les bocaux, racheter, mais les racheter encore dans des usines qui viennent de sortir. On sait aussi que quand même les usines de fabrication de verre sont très polluantes, qu'il y a vraiment des problématiques importantes. Donc, mais continuer à utiliser ce qui est déjà fabriqué, c'est évident que c'est d'abord ça la solution. Après, refabriquer des choses, autant les fabriquer en terre qui soient vraiment le plus local possible, sans prendre des choses qui viennent, c'est sûr, les Tupperware qui viennent de loin par avion, ça n'a plus de sens.
Donc le pot à lactofermentation comme objet de lutte, tout objet qui permet d'arrêter le plastique, l'esclavage industriel et de vivre de notre métier pour toujours et à jamais. Ça, c'est une petite phrase que vous mettez sur votre carte exprimer l'esprit justement de votre travail. C'est quoi donc, c'est l'idée aussi, c'est de fédérer d'autres potiers partout dans le monde, enfin en France d'abord.
Enfin, surtout en France, surtout déjà près de chez nous, puis en France. L'idée, c'était de mettre en route la fabrication d'objets. D'une certaine manière chacun chez soi ou regroupé à quelques-uns comme nous six dans un lieu pour produire rapidement en réduisant beaucoup nos gestes et tous nos gestes en s'aidant les uns les autres. Mais aussi, on a mis en place des protocoles de travail qui permettent que tous les potiers, des potiers en Bretagne, si on a beaucoup de commandes, ils peuvent, avec notre protocole de travail, produire ces pots sur place, et puis d'autres en Alsace peuvent les produire. Donc pour commencer, on se rassemble parce qu'on travaille ensemble, ça nous permet de mettre les choses au point. Mais petit à petit, l'idée, ça serait que chacun puisse monter des collectifs dans son coin.
Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un métier qui revient en force aujourd'hui, justement, à la lumière des enjeux écologiques?
C'est un métier qui a toujours fasciné, la poterie.
Autant, on en voit de plus en plus de personnes qui souhaiteraient justement s'y mettre?
Oui, les gens qui veulent revenir à des fondamentaux comme la terre, c'est évident qu'il y en a de plus en plus. Et clairement, ça nous permet quand même de sensibiliser beaucoup de gens. Mais nous, ça nous a, en tout cas, on a toutes des productions particulières d'autre part, mais ça nous a vraiment permis de relever la tête, ce projet ensemble, et d'imaginer un avenir du métier, des savoir-faire, de conserver quand même aussi des choses qui se sont perdues dans des productions un peu personnelles, du temps, et de récupérer des savoir-faire anciens et de bon sens qu'il fallait qu'on sauve aussi.
Deux questions sur l'application France Inter. Jacques nous demande si on peut recycler l'argile une fois cuit, et Gilles demande si l'argile est une ressource inépuisable. Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions, Marianne Frisch?
Alors, on peut recycler l'argile, on peut pas recycler l'argile, ou on pourrait la recycler en la broyant et en la mettant
une
dans...
Une fois cuite.
Voilà, une fois cuite. Mmh. On peut la casser, des fois on la met dans notre terre, ça s'appelle de la chamotte, il faudrait la concasser, trouver des moyens de le faire. En tout cas, en attendant, elle est pas polluante, elle dérange personne. Les poulpes, si on la jette dans la mer, peuvent y faire leur nid, il y a rien de mauvais. Donc, si toutefois on ne peut pas la recycler, elle nous dérange assez peu.
Ressources inépuisables, deuxième question.
Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est inépuisable. je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est une ressource. De toute façon, il me semble que utiliser tout ce qu'on a autour de nous, quand même, avec une certaine parcimonie, c'est bien.
Et donc, cette argile, celle que vous utilisez, elle est vraiment faite à partir de tout ce que vous récupérez, c'est ça?
Non, l'argile, elle vient du sol. Vraiment, c'est, vous descendez un peu, un peu en dessous de la terre arable, et vous tombez sur de l'argile. Il y en a des plus ou moins bonnes et de plus ou moins pour la cuisson, mais dans l'ensemble, il y en a partout. Ce qu'on récupère, ce qui fait l'émail. Ce sont des engobes, on fait des monocuissons, on cuit en une seule fois. Et ces émaux sont faits uniquement des cendres de nos poêles de chauffage, de poussière de pierre récupérée dans une carrière après concassage de leur pierre, et puis de l'argile.
Ouais. Et ceux qui vous disent, finalement, c'est encore une histoire de bobos qui ont décidé de se mettre à la poterie tout d'un coup, qu'est-ce que vous répondez
à
ça?
Oui, bah alors ça, c'est sûr qu'on l'entend. Après, en tout cas, nous, ce qu'on a vu avec on a fait beaucoup d'échanges avec les gens, d'abord sur le salon qu'on a fait dernièrement, Saint-Sulpice, et puis d'autre part sur des ateliers qu'on avait fait devant public, c'est que les gens, la première chose que ça leur rappelle, c'est leur imaginaire personnel. La choucroute, les concombres, les cornichons marinés, les olives, je veux dire, ça parle à tout le monde, c'est pas bobo. Alors, il y a des mouvances où la petite salade lacto, ça peut faire penser à du bobo, mais de fait, ça a toujours existé. La fermentation, c'est un des moyens de nous nourrir qui existe depuis très très longtemps, et ça a rien de nouveau, ça a rien ni de révolutionnaire. Et c'est une évidence que les gens redécouvrent quand ils voient en fait de quoi on parle.
Un message, Camille, pour terminer?
Hélène qui nous écrit: c'est formidable comme idée de trouver l'utilisation de la céramique. Je suis archéologue et on voit bien que la céramique et le plastique des époques anciennes, évidemment, ça casse, mais c'est inerte contrairement au plastique.
Ouais, voilà. Ça a bien
merci
passé.
Merci Hélène.
Les époques. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent vous rejoindre, Faire Argile, hein, vous avez un site internet pour
Faireargile.fr, oui, on a beaucoup écrit.
Il y a beaucoup de textes parce que, bon, on est des gens d'atelier, donc on n'a pas l'habitude de parler, mais on a écrit, on a pris soin d'écrire vraiment bien.
Ben, en tout cas, vous en parlez très bien. Donc, on peut retrouver ce site évidemment en lien sur la page de La Terre au Carré. Vous restez avec nous, on accueille Bérangère Cornut dans quelques minutes.
France Inter. La Terre au Carré.
Et Camille passe au vert pour cette dernière journée de l'année. Eh bien, Camille Cronier, vous faites le tour des bonnes nouvelles et des curiosités de la planète.
Et pour finir justement l'année en beauté, je poursuis ma petite sélection des plus insolites ou marquantes, comme cette scène assez incroyable que je vais vous décrire pendant qu'on entend le son. Il s'agit d'une vache qui entre dans un petit enclos à l'intérieur d'une étable. Et là, on vient d'entendre le bruit de la porte qu'elle vient de pousser. Ensuite, petit arrêt. Et là, pipi. Une vache qui pisse, hein, on peut le dire comme ça.
C'est ça.
Et puis, alors, il y a un autre bruit qui va intervenir. Ça arrive. Voilà. Pas très agréable à écouter, mais c'est ce qu'on pourrait appeler la chasse d'eau, parce qu'en fait, cet enclos sert de toilette aux vaches. Donc, des scientifiques allemands et néo-zélandais ont réussi à dresser 16 veaux, exactement, pour qu'ils aillent uriner aux toilettes. C'est dans la revue Current Biology. Résultat comparable à un enfant de 3 ans. Une petite blague au départ qui s'avère en fait être un moyen de mieux gérer les émissions de gaz à effet de serre, parce que le pipi de vache est très riche en azote qui, en se décomposant, émet de l'oxyde nitreux, sans parler du nitrate dans les sols. Les chercheurs l'affirment, s'ils arrivent à récupérer 10 à 20% des urines, ça réduira considérablement les émissions. Le défi maintenant, c'est de l'appliquer à des troupeaux entiers et en extérieur, bien sûr. Bon courage! Alors, nous sommes désormais sur les côtes argentines, 360 km au sud de Buenos Aires, où une trentaine de personnes applaudissent parce qu'elles ont réussi en octobre à sauver une baleine à bosse qui s'était échouée. Et beaucoup plus au nord, mais toujours le long de l'Atlantique, sur les côtes du Massachusetts aux États-Unis, d'autres ont remis à l'eau une énorme tortue lutte, 270 kilos, coincée dans une vasière. Voilà, Vogue, jolie tortue équipée d'une balise désormais pour suivre son parcours. Et puis, un autre sauvetage décidément, mais d'un autre genre, puisqu'un wapiti, vous savez, ce sont ces grands cervidés qui ressemblent à des élans et qui vivent beaucoup en Amérique du Nord. Un wapiti donc a enfin pu être libéré d'un pneu qu'il avait autour du cou, oui. Un pneu, 2 ans qui se le trimballait dans le Colorado. Alors comment est-ce que c'est possible d'avoir un pneu pour un wapiti autour du cou? Eh bien, quelques hypothèses avec le garde forestier Scott Murdoch.
Tout le monde se demande comment ce pneu est arrivé là. Peut-être que c'était quand il était très jeune, avant que ses bois ne poussent. Il a pu tomber sur un tas de pneus où des gens mettent de la nourriture pour les animaux. Il plonge la tête dedans. J'ai déjà vu une biche avec un seau autour du cou. Donc, il y a vraiment plein d'hypothèses. Peut-être aussi que c'était pendant l'hiver, quand il perd ses bois.
En tout cas, maintenant, c'est du passé. Hein. Ils ont réussi à neutraliser l'animal qui va bien, mais ont dû malheureusement couper ses bois pour sortir le pneu. Allez, prenez maintenant vos combis, on plonge dans l'océan. Bonjour, belle baleine bleue, toi, le plus gros animal existant sur notre planète, eh bien, plus gourmand, bien plus gourmand qu'on ne le pensait. Une équipe de l'université de Stanford aux États-Unis a étudié pendant 11 ans le régime alimentaire des 7 principales baleines du globe. Pour une fois, sans se baser sur des projections ou en regardant le contenu des estomacs de cétacés échoués, mais directement dans l'eau en équipant 321 individus de matériel de haute technologie. Et le premier constat, donc, c'est qu'elles mangent un max. Écoutez l'auteur principal de l'étude parue dans la revue Nature, Matthew Savoca.
Une baleine bleue, par exemple, dans le Pacifique Nord. Les estimations précédentes disaient 4 à 6 tonnes de krill par jour. Notre étude arrive à 10 à 20 tonnes. C'est énorme. Imaginez la quantité qu'elles ingurgitent un jour où elles mangent. C'est plus que le poids de n'importe quel autre animal sur Terre. C'est fou. Leur repas d'un jour est plus gros qu'un éléphant.
Mais le plus important là-dedans, c'est que ce gros appétit est bon pour les océans et donc bon pour la planète. Explication du climatologue et océanographe Laurent Bopp, directeur de recherche CNRS.
Des baleines qui mangent beaucoup, ça permet à l'océan d'être plus productif. Et ça, c'est très contre-intuitif. Il y a plus de baleines qui mangent beaucoup de krill et pourtant, il y a plus de krill quand il y a plus de baleines. Et la raison, c'est que le krill contient du fer. Ce fer, il va se retrouver dans l'urine des baleines ou dans les pelotes fécales des baleines, et donc il va fertiliser l'écosystème. Plus on a de fer, plus on a de phytoplancton, de microalgues, et donc plus on a d'organismes qui peuvent consommer le phytoplancton, donc plus de krill et plus de baleines.
Voilà, un cercle vertueux qui permet aussi de stocker et d'absorber plus de carbone. On serait donc tenté de penser que les baleines vont sauver le climat en se goinfrant de krill, mais non, c'est bénéfique, oui, mais c'est pas non plus la panacée. Enfin, que serait cette chronique du vendredi sans un petit peu de musique?
Oui.
Je suis peut-être allée un petit peu fort avec AC/DC qui chante que les filles ont le rythme pour vous parler des lémuriens qui ont le rythme. L'indri, espèce endémique de Madagascar avec un incroyable talent puisque c'est le seul mammifère avec l'humain à être capable de mettre le même intervalle entre chaque note. Écoutez plutôt, alors je vous préviens, le chant du lémurien, c'est pas ultra mélodieux, c'est plutôt des gémissements. Alors on va bien écouter, il y a 2 lémuriens, le premier cri plus aigu se répète tous les 3 temps et l'autre plus grave, un peu plus lentement, mais il est régulier aussi. Premier cri, 1, 2, 3 temps, le cri revient. Là, il y a le deuxième cri qui revient. C'est tout régulier, c'est le même intervalle à chaque fois. Ce rythme dit catégorique pourrait faciliter l'apprentissage et aussi influencer le choix du partenaire qu'il ne faut pas louper quand on est lémurien puisque ces indris sont monogames et plutôt fidèles. Hein. Ils restent 20 ans ensemble.
Ça fait rêver. Voilà, ce journal de la planète en rythme. Camille Cronier à réécouter sur franceinter.fr. Dans un instant, Élise sur les chemins, c'est le nouveau livre de Bérengère Cornut.
Tout le monde. Allez. l'époque ils voulaient pas trop le rap, la musique afro. Maintenant que tout le monde est accro, ouais dis-nous qui sont les patrons. Le style un blanc, bas un boubou, on fait tout, appelle-nous Foubou. Je fous les seuls que tout bougeait secoue, je mets le fire dans ton igloo. Je frappe un coup de jab comme un nunchaku, check si tu connais la ref. Moi Namboka, le monde est fou, t'inquiète, on va réparer sa tête. Allez, mettez pas dans mes pas, Kigali jusqu'à Goma, décibel à dose létale, yeah, boum et boum et les baffes.
Chanter, danser, yeah.
Fais boomer les boomers, ok.
Slasher, s'égayer.
Fais boomer les boomers,
La vie s'éveiller.
Fais boomer les boomers,
boomer. Ça y est, mal est fait.
Fais boomer les boomers. Mets du sel dans ta vie, tant mieux, bébé. J'mets du pili pili. J'fais danser les jeunes et les vieux, comme le staff Mandabilili. Chez nous, y'a pas de tube de l'été. Non, toute l'année, c'est l'été. Si tu libères un peu ton esprit, ton cul suivra la mélodie. J'vais te faire courber un peu les chines, mais cette fois, c'est pas pour bosser. Poésie pour bouger les reins, du rein jusqu'à la rouzizi. Viens me coller un billet sur le front. Paraît que bientôt le monde s'effondre. Sur fond de fonte de glaçons, j'fais boum et boum et le caisson.
Chanter, danser, yeah.
Fais boomer les boomers, ok.
Slasher, s'égayer.
Fais boomer les boomers,
La vie s'éveiller.
Fais boomer les boomers,
boomer.
Ça y est, mal est fait.
Fais boomer les boomers. Chanter, danser, yeah.
Fais boomer les boomers,
ok. Slasher, s'égayer.
Fais boomer les boomers,
La vie s'éveiller.
Fais boomer les boomers,
boomer.
Ça y est, mal est fait.
Fais boomer les boomers.
Les infrabasses, les boomers vibrent, fait péter. Allumer les briques, le bal masqué venait fêter. J'construis ma vie, mon œuvre, j'suis dans le BTP. Mon son lourd, mon gros boucan vous laisse les péter. C'est chaud, c'est sale, c'est sueur, suave, c'est l'été. Coup dans les flancs, les dents, le style est capé d'épée. Vos flots sont clonés, pompés, arrêtez, tété. Sans le RAP, je me demande ce que j'aurais été. Je me la coule à la douce, à la cool, je me roule, je roucoule dans mon coin. Quand la foule est debout, je l'avoue, me défoule, me dévoue, lève le poing. Quand y'a doute, je déroute, je dérive, je m'arrête et puis je refais le plein. Puis le groove reprend, il me grise et il roule sans son frein.
Boomer, c'était Gaël Faye sur France Inter.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Un confrère à vous, Bérangère Cornutte, vous n'êtes pas dans la chanson du tout, vous, hein?
Non, je
vous
ne crois
pas.
Vous
n'avez
pas
lancé là-dedans. Pour l'instant,
pas,
votre support, c'est l'écrit. Oui. Et ça le reste avec ce nouveau livre, Élysée sur les chemins, aux éditions du Tripode. On est très heureux de vous recevoir pour en parler. Le livre est sorti hier. Et je le disais tout à l'heure, votre livre précédent de Pierre Edos a été un vrai choc pour beaucoup de lecteurs qui se sont passionnés donc pour la vie de cette jeune femme inuite, hein, qu'on suivait en Arctique. Le livre avait remporté d'ailleurs le prix du roman Fnac et le prix Libre à nous. Est-ce que vous êtes allé en Arctique depuis la sortie?
J'y suis allée depuis, oui.
Ah oui,
oui, oui. C'est la revue America, en fait, qui m'a proposé d'y aller, et ça s'est décidé assez vite. C'était juste avant le confinement, en plus, et j'ai eu cette chance-là. Et oui, du coup, je suis allée en Alaska en janvier, donc au milieu de la nuit polaire.
Et ça s'est rapproché de vos écrits, alors, parce que ce qui surprend vraiment quand on vous lit, c'est que vous avez quasiment fait un travail d'ethnologue, avec une connaissance vraiment très poussée des moindres détails de la vie dans cette contrée, et ça ressemblait finalement à ce que vous avez écrit.
C'était très... J'avais peur, en fait, d'y aller, bien sûr, parce que c'est vrai que moi, le livre était écrit dans une forme de hors-temps, et j'avais très clairement choisi de ne pas traiter la question contemporaine, etc. Donc je ne savais pas trop ce que j'allais trouver dans l'article. Ouais. C'est vrai que j'avais un peu peur d'y aller. Mm-hmm. Et en fait, je pense que les années de documentation ont fait que... c'était très curieux. J'ai eu l'impression à la fois d'arriver dans un endroit qui était sans doute peut-être plus aussi des paysans que la Lune.
Ouais.
Et en même temps, qui m'était très familier du fait
comment que vous étiez documenté, ouais, justement.
Bah, ça a commencé, c'est toujours un peu par hasard, d'abord sur un livre sur les bœufs musqués, qui s'appelle Ovibos, qui était écrit par Gessin, un compagnon de Paul-Émile Victor, mais j'avais pas lu les livres de Paul-Émile Victor. Et puis après, j'avais commencé une documentation plus systématique, plus technique, et puis j'ai fini dans les archives du Muséum National d'Histoire Naturelle, dans le fond Jean Mallory.
Vous avez pu passer pas mal de temps là-bas, je crois, hein.
Oui et non. Alors d'abord, il y a 30 000 documents, donc autant vous dire que j'ai pas pu en consulter plus de 2% peut-être. Après, oui, c'est le temps qu'on y passe et surtout l'effort d'imagination qu'on fait à partir de ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était beaucoup de lectures. Ouais. Et après, au bout d'un moment, si on veut faire quelque chose, si on veut faire du roman, si on veut faire de la fiction, il faut aussi se détacher du matériau technique et documentaire. Donc c'est plus, je parlerai plus d'immersion en fait. Et d'ailleurs c'est très étonnant parce que une fois que j'ai lu et emmagasiné et digéré, j'oublie les informations.
Ouais.
Et donc c'est toujours un peu troublant. Et par exemple pour De Pierre et d'Os, quand il a fallu que je relise le roman une dernière fois et que je me suis posé certaines questions techniques, je me suis dit, mais où est-ce que je suis allée chercher ça? Et en fait, j'ai été surprise de redécouvrir dans mes sources documentaires que, en fait, j'étais restée très très proche de tout ça, mais je l'avais oublié.
En article, vous n'avez pas assisté à la séparation d'une famille à cause de la banquise, justement, qui craque.
Non,
et qui...
mais c'est des choses
c'est ce que vous décrivez, hein, c'est
oui,
le début de Pierre et d'Os.
Ce sont des
hein.
choses qui arrivent. Et moi, quand je l'écris dans De Pierre et d'Os, c'est une scène. En fait, la scène qui m'avait inspirée était bien pire que ça, parce qu'en fait, la scène qui a réellement existé et qui était rapportée par Robert Flaherty, le réalisateur de Nanook l'Esquimau,
ouais.
était celle d'un banquise qui se fendait pendant un moment de repos. Au milieu de l'igloo, c'est par une famille, donc c'est ouais. même encore pire que ce que moi ouais. j'ai écrit. Et puis surtout, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont posé la question, est-ce que vous faites référence à la fonte des glaces aujourd'hui, etc. Alors, en fait, j'y avais pas pensé, mais oui, effectivement, la glace devient de plus en plus instable, incertaine ouais. et difficile à interpréter. Donc, c'est un accident qui est encore courant, bien sûr. Ouais.
Allez, on quitte la banquise et l'Arctique, puisque c'est le paysage d'Élise sur les chemins qui nous attend, avec donc la sortie de ce livre, avec cette famille qui vit sur une colline, ce mélange poétique, je le disais là aussi, entre le rêve et le réel. Un mot d'abord sur la forme du livre, parce que quand on l'ouvre, on se dit bah, « mais c'est quoi, c'est un recueil de poésie en fait ?»
Non mais c'est bien qu'on ait parlé de Pierre et d'Os avant, parce qu'en ouais. fait, je pense que donc, dans De Pierre et d'Os, j'avais inséré quelques... Donc ça ressemble à des poèmes qu'on appelle des chants inuits. Ouais. Effectivement, c'est des récits... En fait, c'est des récits au discours très direct. On va à la ligne tout le temps parce qu'en fait, il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de connecteur logique, il n'y a pas de choses comme ça. Et puis, on ne force pas les images non plus. C'est une parole qui coule, en fait. Voilà. C'est quelque chose qui coule. Et en fait, c'est vrai qu'après avoir terminé le roman, cette forme d'écriture est restée parce qu'elle me paraît la plus... Bah, tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'étais pas dans la chanson. Bah oui, mais si, je suis dans la chanson. Pour moi, en fait, c'est plus que de la poésie ou du vers ou je sais pas quoi. Je parle de,
vous
je
pourriez,
parle de chant.
Vous pourriez pas lire un petit extrait pour qu'on se rende compte?
Ah ben, on peut lire les premières, tiens,
si
les premières
voulez,
lignes.
Oui, si vous voulez.
Parce qu'elle pose tout de suite le décor.
C'est de cette page-là.
Oui.
À l'école de la Sommière, la vie suivait son cours jusqu'à ce qu'un jour je surprenne ma mère en conversation avec un triton. Au bord de sa mare, Zéline parlait ainsi. Triton, entends-tu? Le vent dans les ramures, je crois que les arbres ont un message pour moi. Je ne délivre pas le message.
Allez, en fait, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais vous
c'est
faire
ça,
lire.
C'était le début du roman.
C'était vraiment
mais
le début.
Mais ça marche aussi. Voilà. On peut lire les
Allez,
quelques...
lisez-nous vraiment Allez, le début.
On ouvre le roman.
Voilà, on comprendra mieux.
Je suis une fille, je m'appelle Élise. Je suis née il y a 11 ans, au flanc d'une colline boisée, les pieds dans un ruisseau, la tête dans les bouleaux, enfant des arbres, fille de l'eau.
Voilà, et c'est une famille, hein. C'est la famille d'Élise, oui. avec toute sa fratrie,
oui.
ils sont nombreux, ils seront de plus en plus nombreux d'ailleurs oui. au fil du récit, et cette famille qui a fait le choix de s'éloigner de la ville et des villages, peu de gens sur Terre, écrivez-vous un moment, ont le courage de le faire pour vivre selon les lois de la nature.
Oui,
c'est vrai qu'il faut du courage quand même.
Oui, puis surtout le père dit les seules lois valables sont celles qui président à la naissance de mes salades.
Ouais.
En plus, je veux dire, sans prosélytisme, sans... voilà, c'est pas...
Je vois nos amis potiers réagir...
Je me sens très raccord.
C'est vrai. Vous vivez dans la nature vous-même?
Ah non, bah, enfin oui, oui, moi personnellement, mais je veux dire, en tout cas, je pense qu'on est sur le même esprit, nous, de, ouais. d'en faire argile que cet inuit, finalement.
Oui, c'est ça. Enfin, que ce soit Élise ou mon personnage inuit, en fait, je pense. Alors moi, la découverte s'est dépassée par un roman précédent qui parlait des Hopis, un peuple ouais. amérindien qui est sur les plateaux d'Arizona. Mais en fait, je crois que c'est cette espèce de. J'ai même pas envie de dire, on pourrait dire reconnexion, mais en fait juste de connexion à la nature, mais qu'on a tous vécu. Et par exemple, pour ce livre-là, en fait, la petite histoire, c'est comment j'arrive à Élisée Reclus, parce qu'on va peut-être parler d'Élisée Reclus après, ouais. mais donc c'est inspiré de l'œuvre de ce géographe, anarchiste, etc. Et en fait, au tout départ, c'est une amie qui m'a offert le livre d'Élisée Reclus qui s'appelle Histoire d'un ruisseau, qui est un très beau livre à la fois. de connaissances géographiques, mais en même temps qui se lient, bah, comme on descend un ruisseau, ça coule tout seul. Et en fait, je crois que moi j'ai grandi. En fait, dans mon jardin, il y avait un ruisseau qui passait tout simplement. Et pourtant, j'avais beau être. J'étais dans les Yvelines, donc c'est assez boisé, etc. Mais c'était pas non plus. C'était pas la nature lointaine. Enfin, j'ai grandi dans la banlieue, enfin, à côté de Mantes-la-Jolie, et voilà. Et en fait, cet environnement-là, il m'a marqué profondément à vie. Enfin, c'est ça qui m'a mené sur les chemins d'Élise, par exemple.
Ouais. Et là, justement, cette famille, eh bien, il y a l'école dans les bois, parce que c'est le lieu de l'apprentissage, hein, avec ses parfums, ses sols moelleux, ses herbes, ses mousses. Une école, écrivez-vous, là encore, où les plantes comptent autant que les livres. Donc il y a cette idée aussi que la mère fasse l'enseignement à la sommière, hein, dans ce
oui,
lieu.
Oui, parce qu'en fait, je m'aperçois. Alors c'est peut-être parce que j'ai des enfants qui sont petits, que quand on a des enfants qui sont petits, j'allais dire, on refait presque tous nos apprentissages avec eux. Et moi, c'est vrai que mes souvenirs d'enfance remontent aussi, alors que pendant longtemps, j'ai trouvé ça ringard, les souvenirs d'enfance. Mais en fait, maintenant, on s'aperçoit qu'en fait, on prend connaissance des choses autant parce qu'on nous enseigne à l'école, autant parce que les parents nous disent, que par les moments où on joue dans le jardin, ou si c'est pas dans le jardin, moi, j'habite à Besançon, il y a des parcs. Enfin, je veux dire, en fait, quand on est enfant, on joue avec trois cailloux, un bout de bois, et j'allais dire, peu importe où se trouve ce caillou et ces bouts de bois, on n'est pas obligé de faire la révolution pour retrouver ces sensations-là. On les a toutes en nous, quoi. Et pareil, la question des cycles, là, je m'en aperçois, par exemple, à l'automne, hop, il y a des souvenirs de l'automne dernier qui remontent, ou d'un automne d'il y a 20 ans. Enfin, on est des animaux qui vivons comme ça, quoi.
C'est un livre écrit pour qui ? Pour quel public ? Des enfants, des adultes ?
Ah, c'est drôle. En fait, au départ, c'est un livre que il a mûri dans ma tête pendant 5-6 ans. Et finalement, j'ai fini par l'écrire assez rapidement quand j'ai fini par trouver la forme du chant. Mais au départ, c'était parti d'une commande pour la jeunesse. Et je voulais parler d'Élisée Reclus, donc ce géographe anarchiste que je chéris. Et puis j'ai essayé de le faire sur un mode documentaire et ça marchait pas. Et puis, bref, il y a eu plusieurs essais qui n'ont pas abouti. Et puis un jour, je parlais avec mon éditeur comme ça, il me dit mais je cherche pas à écrire pour les enfants, écris et puis tu verras bien.
Et donc qui le lit là ? Tout le monde peut le lire ?
Tout le monde en fait. Voilà, c'était l'enjeu ça aussi, c'est de pas le publier pour un public spécifique. Et je pense qu'il faut pas message à nos amis les libraires. On sait que on a des rayons jeunesse et pas jeunesse parce que c'est comme ça qu'on organise un lieu d'accueil dans les lieux de lecture. Mais en fait, évidemment qu'il y a un certain nombre de livres, plein de livres en fait. Cette frontière-là, elle n'existe pas pour moi. Elle est plus que pour eux, elle n'existe pas. Et moi-même, à mes enfants, je ne peux pas leur lire des livres qui ne me conviennent pas et je leur lis des choses qui ne sont pas du tout de leur âge. Et à l'inverse, moi, pour me documenter parfois sur mes sujets, je descends pas jusqu'à, je vais pas jusqu'à la tranche d'âge 0-3 ans, même si pareil, j'aime pas trop les tranches d'âge, mais je vais souvent dans les rayons jeunesse des médiathèques, des bibliothèques, parce que souvent, là encore, et là c'est une autre approche, mais comme pour les scientifiques, en fait, des articles scientifiques en anglais reviewés 30 000 fois par des experts, c'est bien, mais en fait les travaux de vulgarisation sont hyper importants et c'est comme ça aussi qu'on a besoin de transmettre. On peut avoir de très fortes exigences en écrivant pour les enfants ou pour un large public comme dans les travaux de vulgarisation. Et moi, quand j'ai besoin d'aller me documenter de façon très précise, je sais aussi où aller. Mais globalement, je me documente dans les rayons grand public, je veux dire. Enfin.
Donc c'est les chemins sur lesquels Élise va parcourir justement pas mal de routes pour retrouver ses frères, parce qu'il y a eu séparation aussi, petit pont aussi avec le précédent ouvrage, et la part du rêve aussi qui est très présente, la rencontre avec des animaux, des vipères, des tritons par exemple, et les mythes qui interviennent également dans ce livre, et vraiment la part du rêve, ça c'est quelque chose que vous écrivez aussi, plus les rêves sont grands et mieux ils vous orientent, hein. C'est quasiment ça finalement la philosophie.
Oui, c'est marrant, c'est une phrase que l'équipe du Tripode a extraite un peu du roman. Moi, c'est vrai que je l'ai écrite assez naturellement. Oui, je crois que pour s'orienter, les rêves sont grands.
Ouais.
Là encore, ça part d'une expérience personnelle. Enfin, je veux dire, moi, je sais que... Après, on rêve plus ou moins, mais bon, d'abord, on rêve tous, donc c'est quand même quelque chose qu'on a tous dans la tête. Après, on choisit d'y faire attention ou pas, on a la disponibilité ou pas pour les accueillir, ces rêves. Mais moi, il se trouve que je rêve beaucoup et que ça c'est aussi présent... Enfin, je veux dire, c'est une matière de réflexion quasiment aussi importante que la réalité concrète.
Élise, elle est revenue dans vos rêves, justement, parce que vous dites, elle est revenue à moi finalement. Est-ce que c'était au travers d'un rêve ou pas, cette envie d'écrire
autour d'elle ?
Non,
pas précisément comme ça. Souvent, je crois que pour moi, le rêve, c'est devenu plutôt comme une façon de penser, en fait, parce que extraire les rêves en eux-mêmes, souvent, c'est de la matière un peu brute, on va dire. Et c'est plutôt des intuitions que ça donne, on va dire, peut-être. Ou...
Et puis, il y a une vraie critique sociale aussi dans ce livre. Hein. Ah bah oui. Il y a le monde des ouvriers.
Ouais, alors ça, par exemple, j'étais pas sûre que j'y arriverais, parce que c'est très important dans le parcours de la figure d'Élisée Reclus dont je m'inspire.
Ouais.
Et je savais pas si j'arriverais à l'insérer dans le livre. J'en avais envie, mais je voulais pas le forcer non plus. Et pareil, en fait, pour moi, le livre commence, on est plutôt... En fait, j'ai pas du tout pensé à toutes les problématiques contemporaines. Pour moi, je situais ça plutôt au 19e.
Ouais.
Et en fait, très facilement, les problématiques contemporaines du 20e siècle, puis du 21e siècle, se sont insérées là, avec la lutte, les luttes sociales, la lutte des travailleurs, l'exploitation des matières premières aussi, parce qu'il y a beaucoup de scènes dans des carrières.
Ouais.
Avec le travail étranger, avec les matières aussi qui sont manipulées, découpées. En fait, il y a quelque chose qui est très important pour moi chez Élisée Reclus, c'est qu'il a dit au 19e siècle, il comprend très vite qu'en fait, si on maltraite, enfin, maltraiter la nature et maltraiter les travailleurs, voilà, l'humanité, c'est la même chose, en fait. C'est la même forme de, c'est la même logique.
Il y a une réflexion sur les béni-oui-oui et leur monde englouti. C'est nous, les béni-oui-oui,
oui,
hein. On le prend pour nous. C'est un vrai manifeste écologique pour ça. Rien n'arrêtera plus la grande dégringolade. C'est peut-être la note la plus triste, au fond, du récit. Hein.
Oui. C'est le genre des adolescents. C'est normal, ils se révoltent.
Ouais.
Mais Élise, elle n'est pas comme ça. Non, mais je veux dire, c'est ça aussi. Enfin, c'est important de faire parler, de faire entendre plusieurs voix. Moi, je suis pas quelqu'un qui a envie de convaincre à toute force ou d'imposer ou de culpabiliser, surtout. Là, pour moi, alors tout ça, je ne l'ai pas fait en le pensant. Hein. C'est venu naturellement. Puis après, c'est vrai, quand je relis le livre, je me dis, oui, en fait, il y a différents types de voix qui se font entendre.
Ouais.
Je pense que la meilleure des manières, c'est juste de marcher au bord de la rivière, comme fait Élise, en fait. Pour rencontrer tout ça, il n'y a que ça qui...
En tout cas, pour ceux qui ont aimé, adoré De Pierre et d'Os, on retrouve vraiment votre style, hein, même dans cette autre forme narrative, avec ces mots qui touchent, avec vraiment une économie de moyens, mais beaucoup de sensibilité. Ça s'appelle Élise sur les chemins, et ça paraît donc au Tripode. C'est sorti hier, Bérangère Cornut.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
À 22 ans, Camille réalise le rêve de sa vie, s'installer en agriculture.
Mon père a des vaches, ma sœur a des chevaux, moi j'ai toujours aimé les chèvres, et mon père, pour mes 20 ans, il m'a offert 9 chèvres et un bouc.
C'est un joli cadeau.
Ah, j'étais ravie.
C'est génial comme cadeau.
J'étais trop contente.
Tu savais où c'était la surprise ?
Non, c'était surprise, ça, vraiment. C'était
une belle surprise.
Oui, très belle surprise. C'est là que l'aventure a commencé, on va dire.
Camille est issue du milieu agricole. Mais malgré l'expérience familiale, l'aventure était loin d'être facile.
Là, je me suis installée en février.
Donc c'est tout frais.
Voilà.
J'ai envie de connaître son histoire, parce qu'elle est aussi celle d'une nouvelle génération d'éleveuses et d'éleveurs.
Voilà, Camille, est-ce que vous aimeriez qu'on vous offre 9 chèvres et un bouc ?
Je n'ai pas la place, malheureusement, pour les accueillir dans mon petit appartement parisien.
On serait bien embêtés. Pierre Girard, Tous Terriens, c'est la chaîne YouTube sur l'agriculture que vous avez lancée. C'est la troisième saison qui démarre là ce soir, hein, c'est ça, hein ?
Elle démarre ce soir sur YouTube à 20h45.
Ouais, les téléspectateurs d'Arte vous connaissent bien avec le magazine Xenius. Tous Terriens, donc c'est Internet, c'est YouTube. Pourquoi est-ce que vous choisissez ce canal, là, vous qui faites de la télé tout le temps ?
Eh ben, je tenais à ce que ce soit un média social, parce que pour moi, c'est vraiment l'occasion de débattre de ces sujets agricoles qui nous concernent tous, agriculteurs et consommateurs.
Ouais.
Et le programme s'arrête pas après la vidéo, on continue, on discute, et cette communauté terrienne qui s'est formée autour de la série, elle est vraiment importante pour moi.
Il y a plus d'interactions possibles peut-être sur Internet que à la télévision, avec les gens qui sont de l'autre côté.
Ouais, l'interaction, c'était quelque chose que j'avais en tant que journaliste, vraiment envie de tester, parce que je veux faire du journalisme constructif à travers cette série. Et elle a vraiment fonctionné, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait à peu près moitié-moitié entre consommateurs et agriculteurs qui discutaient vraiment ensemble dans les commentaires des vidéos sur ces sujets.
Et vous êtes journaliste scientifique, vous, à la base, hein ?
Exactement, exactement.
Où est la science dans cette série sur l'agriculture, alors, en l'occurrence ?
Alors, elle sera un petit peu plus présente dans la troisième saison, ça, j'y tiens beaucoup. J'ai aussi envie de laisser un peu plus de place aux jeunes qui vont prendre la relève. Mais la science, elle est là dans tous les sujets, finalement, parce que c'est vraiment, on parle à la première personne avec ses agricultrices et ses agriculteurs, mais on parle de sujets, d'enjeux scientifiques pour le climat, pour le bien-être animal, donc dans tous ces sujets, même si elle n'est pas au premier plan, elle est là en filigrane.
Ouais.
Un message de Pierre à l'instant sur l'application France Inter pour vous, Pierre Girard. Bravo Pierre Girard pour votre émission que j'aime beaucoup. Je suis un enseignant en reconversion vers des initiatives porteuses de sens et je m'attache à découvrir le monde paysan. Je n'ai jamais osé vous envoyer un message pour vous proposer mon aide ou une collaboration. Peut-être pourriez-vous, France Inter, pallier ma timidité en posant cette question en direct.
Alors, ah bah Pierre, c'est Girard, carrément là.
Le message est passé.
On
ne pourra
pas dire qu'on vous l'a pas transmis. Hein.
Exactement, c'est arrivé. Ouais. C'est arrivé. Et c'est la beauté de cette série sur YouTube aussi, c'est que j'ai vraiment une interaction en direct avec des personnes qui regardent le programme, ce qui n'est pas forcément possible de la même manière sur la...
Est-ce que vous avez un lien personnel, vous, avec le monde de l'agriculture ou pas du tout ? Vous
Alors, je crois qu'on a tous
un journaliste scientifique urbain qui arrive dans ce domaine-là.
Moi, je suis un urbain, ouais, effectivement, mais je pense qu'on a tous un lien personnel, intime, charnel, quasiment avec l'agriculture, mais j'en ai pas plus qu'un autre ou qu'une autre.
Ouais. Et cette idée, alors, c'était quoi pour vous au départ ? Qu'est-ce que vous vouliez montrer, alors ? Ce monde qui est en vraie transformation, là, aujourd'hui?
En tant que journaliste, c'est vrai que ça fait des années, plus de 10 ans sur Arte, que je traite de ces sujets agricoles et que je me rends compte, effectivement, qu'on a une tendance importante à parler, à mettre en avant les problèmes, en tant que journaliste, les problèmes qui sont suscités par l'agriculture.
Oui.
Mais je me rendrais compte de plus en plus que les agricultrices et les agriculteurs que je rencontrais sur le terrain avaient des solutions à proposer et qu'on oubliait souvent de les présenter. Donc j'avais envie de leur donner aussi la parole sur ces solutions qui sont vraiment très concrètes, hein, finalement, ces solutions. On parle de stocker du CO2, on parle de solutions pour le bien-être animal, de rétablir des bocages pour façonner les paysages et retrouver un peu de biodiversité, etc.
Votre terrain, c'est la France uniquement ou vous explorez d'autres horizons ?
Alors c'est la France uniquement, plus parce que je me suis rendu compte que sur YouTube il y avait plus de réactions du côté français. Au départ j'ai commencé
avec l'Allemagne,
effectivement la première vidéo était en Allemagne. Je me suis rendu compte qu'il y avait tout de suite une affinité pour ces sujets et pour ces solutions agricoles en France. Donc j'ai décidé, c'est aussi mon pays, hein, de me lancer sur ces solutions en France, mais j'ai envie cette année aussi d'aller plus d'étendre ça à l'Union européenne.
On va écouter un extrait donc de Tous Terriens avec Anne-Gaëlle, extrait d'une vidéo où on fait la connaissance de cette jeune agricultrice en bio.
Mon père, il était éleveur de vaches Primolstein en conventionnel, et il était très connu dans la région pour avoir des super vaches, et il les appelait ses Formule 1, tout ça. Je lui ai dit, bah, par contre, moi, il faut que ce soit en bio. Donc, est-ce que t'es d'accord, oui ou non? Si t'es pas d'accord, on va chercher ailleurs. Donc voilà, c'était ça.
C'est osé.
Ouais, c'est osé, mais pour moi, c'est physiquement pas possible. Bah lui, il était carrément partant.
C'est vrai?
Ouais. Après, dans la pratique, alors là, par contre, c'était plus compliqué, parce qu'on a été associés, en fait. Puisqu'il lui restait, il lui restait 4 ans à faire avant la vraie retraite. Il était très inquiet, il avait très peur. Parce que c'est un monde qu'il ne connaît pas. Les choix qu'on faisait de pratiques agricoles, pour lui, ça ne marchait pas. Parce qu'en fait, c'est pendant 35 ans, il a fait tout l'inverse. Et donc, il était dans un stress pas possible qui s'est transmis à nous. Enfin bon, donc ça a été très conflictuel quand même les premières années avec mon père. Ça clashait, quoi.
Voilà, Tous Terriens sur YouTube, la voix d'Anne-Gaëlle. Est-ce que c'était une façon aussi de réagir à l'agribashing, un petit peu de monter cette série, Pierre Girard ?
Alors, je déteste ce terme d'agribashing, personnellement. Non, c'est une façon peut-être de faire un peu mon mea culpa de journaliste, de dire que j'ai peut-être oublié de regarder ce que les agriculteurs faisaient de bien dans le passé. Donc, je dirais que c'est plutôt pour rétablir un petit peu... pour montrer vraiment ce qu'est la réalité que je vois sur le terrain, plutôt que de réagir à l'agribashing.
Il y a un problème de renouvellement, en tout cas, hein, des générations dans ce métier. Vous avez l'impression quand même que des jeunes et des femmes en particulier arrivent et vont faire bouger un peu les choses?
Alors c'est vrai que dans les 10 prochaines années, on estime que la moitié des agricultrices et des agriculteurs vont prendre leur retraite, donc il va y avoir la question de la relève qui va se poser.
Ouais.
Moi j'ai surtout l'impression, au-delà de la question de la jeunesse, que la majorité des agriculteurs que je rencontre sur le terrain sont déjà dans une dynamique positive de se poser des questions, de remettre en question leur modèle et d'aller pas seulement vers le bio, hein, ça peut être l'agriculture de conservation des sols, le maraîchage sur sol vivant, vraiment de replacer la vie des sols, le bien-être animal au cœur de leur pratique agricole. Ouais. Ce changement, il est vraiment en train de se passer.
Alors, troisième saison sur YouTube, hein, avec le retour des loups dans les Alpes et les Pyrénées, avec un berger qui s'était fait connaître avec une vidéo où il clashait Hugo Clément, une vidéo qui avait fait 1 million de vues, et vous l'avez retrouvé donc sur le terrain, dans sa pratique.
Oui, alors j'ai pas dû chercher longtemps parce qu'il est assez ouvert à la communication. Il m'a ouvert les portes de sa réalité. Donc il vient de passer
Joseph Bouchon.
Voilà, Joseph Bouchon vient de partir des Alpes pour s'installer dans les Pyrénées. Il est en train de s'associer à Olivier qui a une ferme aussi avec des moutons, la ferme du Paysas dans la vallée d'Aspe. Et il m'a ouvert donc sa réalité. Ils m'ont ouvert avec Olivier leur réalité. Et je suis parti aussi dans les Alpes voir un couple de la ferme des Armaillis qui est confronté à la présence d'une meute de loups sur l'alpage familial.
Ouais.
Et donc, c'est ce que vous allez voir ce soir.
Exactement, pour le lancement. Donc, 20h45. Et puis après, évidemment, ça reste sur Internet autant qu'on veut. Et on peut s'abonner à votre chaîne. Il y a déjà 3 saisons.
Hein. Gratuitement.
Il y en a un par mois, c'est ça, a priori ?
Un par mois. Un nouvel épisode chaque mois.
Merci beaucoup, Pierre Girard. Donc, tous les liens sont sur la page de La Terre au Carré. Le nouveau livre de Bérangère Cournutte, Élise sur les chemins, est paru au Tripode. Et puis, si vous avez envie de vous mettre à la poterie, là aussi, on a plein de chose à vous proposer avec nos invités et le lien vers leur groupe de potiers et de potières. Merci beaucoup et bon week-end à toutes et à tous. À bientôt.